Hello, ici Audrey de Choose Your Mentor. Aujourd'hui, nous recevons pour vous David Akassimadou. David est un acheteur de biens de consommation agricole chez McDonald's. Il s'est ouvert sur son parcours et ses différents ajustements en cours de route avec une totale transparence. On parle de la multiculturalité de David, de son lien à l'Afrique où il a grandi, entre la Côte d'Ivoire et le Niger, et de son amour pour le monde agricole et le domaine de l'achat. David commence par des études en biologie, biotechnologie à l'Université de Bordeaux, puis intègre en admission parallèle une école d'ingénieurs d'où il sort ingénieur agronome. La fibre business de David le pousse à faire une dernière année en école de commerce. Il postule alors à Kedge Business School, où il est accepté en master spécialisé en achat international. David nous montre la linéarité de son parcours et sa volonté ferme de travailler dans son domaine de prédilection, l'agriculture. Cet épisode vous apportera beaucoup de réponses, je le crois, et vous plongera au sein d'une fonction stratégique dans l'entreprise, mais pas suffisamment connue ou vulgarisée. Je vous sens impatient. Je vais donc vous souhaiter bonne écoute et laisser place à notre conversation avec David.
Bonjour David.
Bonjour Malik.
Je suis très heureux de t'avoir sur le podcast ce soir. On va commencer comme avec tous les autres guests. Est-ce que tu peux te présenter, parcours d'études, H si tu veux, parcours pro, parcours associatif, ce que...
Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais avant tout, je voulais quand même te remercier pour l'invitation. parce que je commence à devenir fan aussi finalement du podcast que j'ai commencé à écouter. Ouais. Et surtout de l'initiative que vous faites, parce qu'il y a pour moi deux choses qui sont importantes, c'est notre capacité à léguer du savoir, léguer de l'espoir aussi. Et deuxième chose, c'est la capacité à contribuer aussi. Donc pour moi, c'est une forme de contribution à l'environnement, à la société, donc c'est hyper bien.
Voilà. Merci beaucoup, David.
Je parle beaucoup, hein. J'espère que tu es...
Ah bah, ça va faire plaisir à nos auditeurs. Et merci encore parce qu'on est jour de grève.
Ouais.
On est jour de grève à Paris et David est quand même venu. On avait prévu ce rendez-vous depuis un moment et il a honoré le rendez-vous. Donc, merci beaucoup, David.
Avec plaisir. Allez, et donc, en présentation, donc, David Akassimadou, franco-ivoirien nigérien.
D'accord.
Donc, je suis né à Bordeaux en 1991. Donc, le deuxième d'une famille de quatre enfants. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mon père est ivoirien. Au niveau de mes études, donc, j'ai fait mes premières armes scolaires au Pitchoun.
D'accord.
Les Ivoiriens reconnaîtront l'école. Et ensuite, j'ai fait mon collège à Mermoz. Puis, je suis parti au Niger pour continuer au lycée français à Niamey. Et je suis revenu à Blaise Pascal pour finir avec ma terminale.
D'accord.
Et suite à cela, j'ai eu l'opportunité de venir en France pour faire un doc de biologie à Tours, dans le centre de la France.
Okay.
Et puis, s'en est suivi mon parcours ingénieur agro à Bordeaux. Et ensuite, une spécialisation, un master spécialisé chez Kedge Business School, okay. Une école de commerce bordelaise aussi.
Très bien. Du coup, David, ton parcours t'a mené dans pas mal de pays, donc France, Côte d'Ivoire, Niger, et re-France. Tu as choisi la biologie donc, pour commencer ton parcours universitaire. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'était les parents qui poussaient ou toi personnellement qui étais intéressé par le sujet?
Mais écoute, j'avais en tête depuis la troisième que je voulais travailler dans l'agriculture.
D'accord.
Je pense que c'était un peu assez inconscient. Quand on grandit en Côte d'Ivoire, on n'échappe pas au monde agricole. Bon, voilà, il y a des matières premières qu'on peut citer, comme le cacao, qui sont très parlantes pour les Ivoiriens. Donc, je me suis dit, une formation d'ingénieur agronome, ce serait bien. Mais je ne savais pas vraiment ce que c'était.
Est-ce que, à ce moment-là, tu avais déjà l'intention de rentrer travailler en Côte d'Ivoire?
Pas nécessairement.
D'accord.
Bon, tu sais, quand on est jeune, on a du mal à se projeter plus loin que la classe qui suit. L'objectif, c'est de passer et de ne pas redoubler. Mais je ne sais pas, je m'étais mis en tête que je voulais travailler dans l'agriculture. Et il s'est trouvé qu'en première et terminale, quand on choisit sa spécialisation, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup finalement tout ce qui était SVT, sciences de la vie. Et c'est dans cette matière que j'avais les meilleures notes aussi.
Okay.
Donc ça a un peu construit de manière assez naturelle mon cheminement. Et la biologie, pour moi, c'était la continuité de ce que je faisais en terminale.
D'accord.
Et c'est vrai que, donc ça, c'est, on va peut-être en parler, mais je n'ai pas forcément eu un accompagnement plus précis que ça dans le choix d'études que j'allais faire. J'avais, tu vois, indiqué que j'étais intéressé par la biologie, mais ça s'est arrêté là. Et donc, ouais, le parcours, et le parcours qu'on m'a conseillé, c'était bah, tu peux faire une fac de bio. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut paraître... classique, mais moi je trouve que à cette période de ma vie, ça aurait aussi peut-être été intéressant d'avoir une personnalisation finalement des conseils qu'on a pu nous donner là-dessus.
D'accord, très bien. Et du coup, après ces deux années de biologie, tu te spécialises, enfin tu pars en master agroalimentaire.
Alors, assez différent de master, c'est vraiment une formation d'ingénieur. Donc, école d'ingé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un concours en bac plus 2.
Ok.
Pour entrer dans cette école, j'ai commencé à développer l'intérêt et surtout à me renseigner dès mon arrivée en première année. Et en deuxième année, un concours aussi de circonstances, et puis finalement les bons conseils de mes amis, de ma copine de l'époque, qui est toujours ma copine actuelle, qui est d'ailleurs ma fiancée, m'ont aidé aussi finalement à dessiner ce projet. Et je fais le concours, j'ai été accepté, et c'est comme ça que j'ai commencé le parcours ingénieur.
Pour qu'on comprenne bien, l'école d'ingé, on rentre normalement sur concours, après un bac plus 2, donc un post-bac, il y a des prépas à la base, là c'est pas une prépa.
En fait, tu as plusieurs voies d'entrée. Tu as l'entrée prépa, donc ce qui correspond en fait à, après ton bac, tu intègres un cursus spécialisé, qui est soit directement dans l'école ou dans un établissement spécialisé qui te prépare pendant 2 ans à faire le concours pour entrer dans un pool pour accéder à l'admission dans un pool d'école.
Okay.
Et par la suite, en fonction de la note que tu as, tu entres dans l'école. Ouais. Et moi, ce que j'ai fait, c'était un peu différent. Donc, c'était un circuit parallèle qui permettait, après un niveau Bac plus 2, de faire un concours. Donc, pas forcément les temps préparés comme les autres, mais de faire un concours et se donner l'opportunité de rentrer aussi finalement dans un cursus de formation ingénieur.
D'accord.
Et pour la formation, il y a aussi un troisième parcours qui est de faire une formation type BTS DUT, IUT, formation qualifiante avec un niveau Bac plus 2 qui te permet aussi de faire le concours et d'accéder à une école d'ingé.
D'accord, très bien. Et du coup, en école d'ingé, ensuite, à Cage.
Tout à fait.
Enfin, le choix de l'école Cage, il y a une raison particulière.
Oui, en fait, je vais me permettre de définir ce qu'est un ingénieur agronome déjà.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est, je ne sais pas si c'est une formation qui est très connue. L'ingénieur agronome, il a plusieurs, on va dire, spécialisations possibles qu'il peut essayer d'aborder dans sa formation en cursus ingénieur, mais son rôle clé, il est d'apporter une vraie vision cadrée d'innovation dans le monde agricole et une notion finalement d'outillage pour les pratiques agricoles et pour finalement le système agricole.
Okay.
Tu vois, mais donc du coup, l'ingénieur agro peut à la fois être professeur en lycée agricole, être technicien agricole, ouvrier agricole ou chef d'exploitation agricole.
Okay.
Et il peut aussi étendre sa connaissance jusqu'au monde de la transformation dans l'industrie agroalimentaire. Et justement, ce qui m'a intéressé très rapidement, c'est le monde de l'agroalimentaire. Donc, je me suis spécialisé sur la partie agroalimentaire au travers de ce qu'on appelle, je ne sais pas si les auditeurs vont connaître ces spécialisations-là, mais tout ce qui est qualité, sécurité, hygiène et RSE.
D'accord.
RSE ou développement durable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher l'agroalimentaire. Donc sortir finalement des premières années qui sont très généralistes, où tu apprends ce qu'est l'agriculture, les pratiques agricoles, comment piloter une exploitation agricole, les généralités finalement. C'est avec ces spécialisations-là que j'ai pu commencer à toucher au monde de la transformation et à l'industrie.
Très bien. Merci beaucoup David pour moi j'avais pas une connaissance à ce point-là de l'agroalimentaire, je savais ce que c'était plus ou moins mais pas dans ce détail-là. Et du coup ensuite Cage, après après Cage.
Déjà, en sortant d'école d'ingé.
Ah pardon, école d'ingé avant Cage. Hein,
oui, c'est ça.
Pardon, excuse-moi.
École d'ingé avant Cage. Parce que bon, je pense que c'est intéressant de préciser que bon, l'ingénieur agro, il se voit pas forcément in fine acheteur, mais mon projet, il a commencé à se dessiner en dernière année parce que j'ai rencontré une personne, donc une personne de mon école, mais qui avait un an d'avance et qui avait fait ce parcours de spécialisation chez Kedge, donc c'est un master spécialisé qui forme aux achats internationaux, qui s'appelle le MAI.
Et,
MAI, oui. Master
MAI Kedge.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que j'avais cette fibre un peu business qui se développait de plus en plus. Et je ne savais pas comment créer un pont entre la technique et le business. Parce que parfois, pour faire avancer les enjeux techniques, il faut aussi parler business. Et inversement, et notamment dans le monde de l'agroalimentaire, qui est un monde aussi, finalement, qui est l'idée, c'est-à-dire drivé, conduit par le business, mais avec des enjeux qui sont surtout techniques.
D'accord.
Et donc, en parlant à cette personne, c'était comme un déclic pour moi, parce que je me suis dit, j'ai l'opportunité peut-être d'aller faire une fonction.
Un premier mentor.
Exactement. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait mon stage de fin d'études chez C'est Moi Chocolatier. Okay. Encore une fois, les Ivoiriens.
En Côte d'Ivoire.
Non.
Ici.
Alors, dans une ville qui est à côté de Bordeaux qui s'appelle Bègle.
Okay.
Parce que le groupe C'est Moi a plusieurs sites de fabrication, okay. dont celui de Côte d'Ivoire aussi, enfin Abidjan. Mais moi, j'avais fait mon stage dans une usine à côté de Bordeaux. Et c'est aussi pendant ce stage que j'ai découvert une partie de la fonction achat.
Okay.
Parce que j'étais présent sur la partie qualité là-bas, réception des matières premières, suivi du respect des exigences alimentaires. Et du coup, je voyais ce que les acheteurs faisaient, le lien que ça pouvait créer aussi finalement. Donc il y avait du relationnel dans cette fonction que j'essayais aussi de chercher finalement. Parce que la qualité, c'est une fonction de relation.
Ouais.
Quand on travaille dans l'usine et qu'on a pour rôle de s'assurer que les produits respectent les exigences et sont sains d'un point de vue sanitaire, c'est aussi finalement par l'échange, par la création de relations avec ses collaborateurs et avec des gens qui sont sur le terrain. Et l'acheteur avait aussi cette notion de relation. En plus, avait aussi la dimension business.
D'accord.
Et donc c'est ça qui m'a intéressé.
D'accord, top. Et du coup, une année à Kedge.
Tout à fait, master spécialisé. Donc là aussi, tu fais, c'est assez classique, les masters spécialisés, les moyens d'entrée sont divers, mais généralement, c'est un entretien
sur, avec, dossier,
sur dossier, avec aussi finalement des interviews, parfois des études de cas, c'était le cas chez Kedge. Et ça s'est fait donc en alternance.
D'accord.
Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes premières armes en achat chez Suez Environnement, qui est une entreprise filiale de Engie et qui a pour mission, en fonction de son activité, de distribuer l'eau potable ou de recycler les déchets ménagers ou industriels.
Okay. Bon, on avait déjà discuté de Suez, ils font énormément de franchises, mais qui sont, c'est très franchisé, c'est ça, hein.
Alors, Suez, plus spécifiquement, tu sais, c'est des délégataires de services publics. Je sais qu'on en avait parlé, effectivement, parce que c'est une entreprise qui fait penser à une entité publique, mais qui est une vraie entité privée, mais qui a pour mission, finalement, de par la délégation, de s'occuper d'activités d'utilité publique.
Ouais.
Le potable, la distribution, le recyclage. Voilà.
Très bien. Et du coup, David, tu te retrouves chez McDo en Suisse.
Exactement, avec un petit passage, je voulais te le dire, chez Airbus.
Ok, toujours en achat.
Toujours en achat. Okay. Donc, je sors de l'agroalimentaire, mais je reviens assez rapidement, effectivement, avec McDo.
On va terminer d'abord sur ton parcours avant de revenir sur les mentoring. Du coup, ensuite, McDo, tu commences chez McDo, donc après un petit passage chez Airbus. Et chez McDo, tu fais en achat toujours, mais
concrètement. Alors, l'objectif de l'acheteur chez McDo, il est assez similaire à ce que tu peux retrouver dans beaucoup d'entreprises. C'est un, de s'assurer de sécuriser la supply chain. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux continuer à pouvoir bénéficier en tant que consommateur des produits de McDonald's, il faut bien que ces produits arrivent en restaurant. Et donc, l'objectif de l'acheteur, c'est de s'assurer de pouvoir créer ce lien-là entre le fournisseur et la chaîne d'approvisionnement, donc de la livraison du site de fabrication jusqu'au restaurant, s'assurer que ce lien soit fait et qu'il soit fluide et efficient. Deuxième objectif, c'est la capacité à accompagner, finalement, à pérenniser l'activité de l'entreprise en allant chercher de la performance économique.
Donc, à sécuriser, ces canaux de
ton approvisionnement,
approvisionnement.
Est-ce que finalement de l'usine de fabrication de fromage, je m'assure d'avoir les camions qui me permettent de livrer in fine les différents restaurants sur le territoire.
Et donc, la structure centrale de McDo livre à la plupart des restaurants sur le territoire français, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça. Tu as en fait une... C'est assez classique. Hein. Tu as une supply chain, comme on dit, mais une chaîne d'approvisionnement qui est organisée, qui te permet, avec le passage dans certains entrepôts, de pouvoir ensuite distribuer dans les restaurants disséminés sur l'ensemble du territoire.
D'accord.
Donc, moi, mon rôle, sur un certain type de catégorie, c'est justement de m'assurer que cette chaîne d'approvisionnement se fasse sans encombre, dans les délais impartis. Et comme je commençais à te dire, mon deuxième objectif, c'est d'accompagner le business en allant chercher de la performance économique, donc de l'économie, et aussi savoir comment mieux acheter. Alors, l'idée, c'est pas toujours d'acheter moins cher, comme on peut facilement le dire, mais c'est surtout de bien acheter.
Voilà. D'accord.
Avec, en intégrant les dimensions éthiques aussi associées à...
Du coup, il doit y avoir énormément de process de, enfin, d'achat, de normes. Enfin, de toute façon, tu fais de la qualité à la base, donc c'est de. McDo a certainement des normes et des références produits.
Exactement. Bah, en fait, on l'oublie souvent, mais le premier. Ce qu'on peut qualifier de référentiel, c'est la réglementation. On est dans un pays, on a la chance d'être dans un pays, la France, dans lequel tu as une réglementation qui est bien poussée, appuyée aussi finalement par celle de l'Union européenne. Ah. Et donc, il te donne un bon cadre de travail. Et effectivement, après, en fonction des entreprises, tu as une spécificité qui peut apparaître aussi en termes d'exigence.
Très bien. Bon, on va certainement revenir sur McDo. Mais là, on va passer sur le volet mentor. Donc, à plusieurs reprises, tu as dit que tu avais été, au début, pas vraiment conseillé, et ensuite un peu plus conseillé par tes proches. Est-ce que tu as des mentors ces personnes-là que tu as citées, d'autres personnes, que c'est des mentors que tu connais, que tu as l'habitude de côtoyer, ou des personnes que tu vois dans l'environnement général et auxquelles tu t'identifies? Comment est-ce que tu ta relation au mentoring?
C'est difficile pour moi de te parler de mentor à proprement dit, mais plutôt de source d'inspiration.
D'accord.
Alors, premier exemple qui est plutôt facile, ce sont les parents.
Oui, bien sûr.
Mais c'est le cas, tu vois. Moi, j'ai beaucoup été inspiré par mon père et ma mère. Ma mère qui est finalement entrepreneuse, qui est notaire, donc qui a monté son cabinet. Okay. Et mon père qui a un parcours aussi qui est finalement hyper intéressant, qui a fait Sciences Po et qui a une vision du monde qui est très intéressante, politisée, mais surtout intéressante. Et donc, je me suis dit, il faut que je puisse aussi finalement suivre ce chemin. Donc, c'est inconscient, mais ça drive en bien quelque sûr. Sorte. Après, il y a eu beaucoup de sources d'inspiration. J'ai parlé de ma fiancée.
Ouais.
Mais il y a aussi des personnages que je connais moins directement. Je ne sais pas si tu
bien
considères
sûr,
aussi ouais. comme étant des mentors.
Ouais, bien sûr, tout à fait.
Tu vois des personnalités comme Tidiane Thiam.
Ouais. Ça revient beaucoup là.
Ça revient beaucoup, d'accord.
Oui, mais c'est tout à fait normal. Hein.
Non, mais enfin, je trouve hyper intéressant son parcours et la capacité qu'il a eu de mettre, de faire fi, tu vois, de son histoire et de pouvoir avancer au projet qui était le sien, tu vois. C'est hyper intéressant. C'est une vraie. Je pense que ça démontre aussi que quand on a un projet, on peut arriver au bout.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est quand on lui pose la question de ce qu'il a envie de faire de la politique, etc. Il a eu cette capacité-là à résister finalement à une forme de pression sociale et à se renforcer sur son projet. Quoi. Donc ça, c'est quelqu'un que je suis et que j'admire beaucoup.
D'accord, très bien. On va revenir sur McDo. Mmh. Le process d'intégration à McDo. C'est comment tu postules? Est-ce que sur le site internet, je suppose, ou peut-être des méthodes de cooptation
Alors, c'est assez classique. C'est vrai que je dois t'avouer que je n'aurais jamais imaginé travailler chez McDo.
Ouais.
Et c'est vrai que ça s'est fait un peu au hasard, comme finalement beaucoup d'opportunités.
Ouais.
J'ai postulé chez McDo très de manière
sur le site internet.
Très classique.
Okay.
J'ai vu une offre. Je crois que c'était sur Indeed, pour tout te dire. Tu vois, donc, même pas encore sur le site en direct. Alors, naturellement, Indeed m'a renvoyé vers le site.
Bien sûr.
Et puis, j'ai postulé et j'ai été appelé. Et à l'époque, donc, j'avais décidé de sortir de l'aéronautique.
Okay.
Donc, j'avais pas encore eu l'opportunité chez McDo. J'ai démissionné de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc, je travaillais dans un cabinet spécialisé en achat.
Okay.
Et j'étais détaché chez
Airbus. Okay.
Et donc, j'ai démissionné et je suis parti aux États-Unis. Quelques semaines, hein.
Okay.
En vacances, mais aussi finalement dans l'idée de voir autre chose, de m'évader, quoi.
L'achat dans l'aéronautique, ça te plaisait pas du tout, c'est ça, c'était pas ton truc.
Tu vois, mon projet, c'était de créer un pont entre la technique et le business, ouais, initialement, et j'arrivais pas à avoir la valeur ajoutée que je savais que j'allais avoir dans l'agroalimentaire,
ouais,
du fait de ma formation d'ingénieur agro. Mm. Donc, je me suis dit, et je pense que c'est aussi intéressant de partager le fait qu'il faut savoir se remettre en question, et surtout suivre sa vision, quoi qu'il en coûte.
Ouais.
C'est facile à dire, hein, mais c'est hyper important de se forcer à essayer de le faire, en tout cas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné sans forcément avoir d'opportunité derrière.
Ouais.
J'avais même pas encore vu l'offre de McDo. Je suis parti aux États-Unis. Il y a un petit trip à New York, Philadelphie, Houston. Mm. Et ensuite, donc ça, c'est grâce à ma fiancée,
mm,
qui m'a offert le voyage.
De te sortir un peu de ton quotidien.
Et qui m'a proposé de faire ce voyage. Et à mon retour, je me suis mis à chercher du travail. Tu vois, c'est hyper classique, hein.
Ouais.
Je me suis mis à chercher du travail. Beaucoup d'entretiens dans de grandes entreprises d'agroalimentaire, chez Mars, entre autres. Et au final, j'ai été pris chez McDo.
Ouais.
D'abord en CDD.
D'accord.
Et ensuite, bon, ça s'est prolongé sur un CDI. Voilà, donc ça, c'est des histoires assez communes, mais qui existent encore.
Oui, bien sûr. C'est mon cas, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il y a un process de cooptation en interne?
Alors, tu peux effectivement, par définition, ce que tu appelles cooptation, c'est la capacité à proposer quelqu'un, c'est ça?
Oui, enfin, donc pas mal de boîtes maintenant. Il y a un processus qui est totalement normé pour des gens de dire vous êtes les premiers ambassadeurs de la boîte, donc après ça se passe beaucoup dans des boîtes IT qui embauchent énormément aujourd'hui et donc ont besoin de ressources puisque ça tourne énormément, peut-être que c'est pas le cas pour
non, c'est t'auras pas de, en tout cas ce sera pas une cooptation cadrée
normée, d'accord,
normée, pardon, c'est le terme que tu employais. Mais par contre effectivement je peux toujours recommander. C'est un peu plus informé, mais je recommande.
Ok. Et du coup, chez McDo, forcément, il y a toutes les filières, hein, compta, juriste, marketing, finance, enfin, ils embauchent de tout.
Exactement, tu as tous les corps de métier que tu peux imaginer dans une entreprise agroalimentaire.
Ouais. Ouais. Et du coup, en interne, est-ce que c'est siloté, donc l'achat avec l'achat, le marketing avec le marketing, est-ce que vous...
Alors, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est parce que c'est une entreprise agile, je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu à cause de ça, mais on travaille beaucoup en équipe multimétier. Et de nos jours, c'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se fermer, tu vois, par définition. Quand on a un projet professionnel, il faut se donner les chances de justement s'ouvrir à tout ce qu'on peut avoir comme information, conférence, ce genre de choses, pour être en mesure d'apprendre à avoir un esprit curieux et attiser son intérêt sur différents sujets.
Ouais.
Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup parce que j'ai essayé de développer cet état d'esprit quand j'ai décidé de me spécialiser.
Mm.
Et c'est vrai que le Master Spi m'a apporté cette vision business hyper intéressante.
Mm.
Et c'est aussi ça qui a créé, si tu veux, les premiers fondements de la capacité à travailler en équipe multimédia. Et ça marche bien chez McDo parce que c'est une entreprise qui travaille beaucoup en équipe multimétier avec le marketing, le juridique, les métiers plus opérationnels de terrain et puis les métiers comme nous, métiers de support, mais aussi qui drive finalement le business grâce à ce qu'on apporte comme économie.
Ouais. Et du coup, tu sais que tu en as déjà parlé, concrètement, l'achat, enfin moi typiquement, un pote me dit, fait achat. Je sais pas, il me dit, mais achat, oui, genre, tout le monde achète, tout le monde vend. Non, mais pourquoi lui, il est spécialisé dans l'achat? Concrètement, qu'est-ce qu'on retire du parcours scolaire? C'est quoi la valeur ajoutée du parcours scolaire achat dans l'entreprise en termes d'économie, justement, sauf par l'économie d'échelle, j'imagine, mais.
Écoute, ce qui est intéressant dans le métier d'achat, c'est les nombreuses, enfin, les nombreux éléments que ce métier apporte et qui permettent de créer de la valeur ajoutée. Je commencerai par, tu vois, la capacité à créer de la relation avec les ressources externes. Parce que tu sais, une entreprise, elle ne vit pas seule.
Bien sûr.
Elle vit avec des prestataires, elle vit avec des fournisseurs. Et donc, quand tu es acheteur, tu as aussi cette mission-là de créer la relation entre ce dont ton entreprise a besoin et ce que le marché peut te proposer. Ce qui est intéressant aussi avec les achats, c'est la capacité à aller chercher l'innovation. Donc, tu contribues à ce que ton business aussi se développe grâce à ta capacité à chercher l'innovation. Tu vois, aujourd'hui, je sors un peu d'agroalimentaire, mais c'est pour donner un exemple comparatif, mais le monde, finalement, des entreprises qu'on appelle les GAFA fonctionne aussi comme ça. Ils font beaucoup d'innovation capture. Ils vont capturer en quelque sorte l'innovation avec les prestataires.
Ouais.
Et c'est ce qui crée aussi une dynamique dans la capacité de l'entreprise de se renouveler. Donc, aux achats, on a aussi ce rôle-là. Et c'est important de savoir manier les chiffres. Ça, c'est normal parce qu'on parle d'argent, mais aussi de pouvoir créer cette relation. Et tu vois, avoir l'opportunité d'évoluer dans un métier où tu es dans le relationnel, tout en ayant la capacité d'être factuel, de parler chiffres et surtout d'argent, c'est bien intéressant.
Ouais. Okay. McDo fait face à une forte concurrence directe, indirecte, pas mal de business qui se lance, surtout dans la healthy food et tout ça.
Ouais.
Et comment est-ce que l'acheteur, l'entreprise se positionne déjà? Chacun se positionne en transformant un peu son image de marque.
Ouais.
Et comment l'acheteur se positionne aussi au milieu de cette transformation-là de McDo?
Alors, sans forcément, bon, c'est assez classique. C'est aussi ça la mission de l'acheteur, sans forcément parler de la stratégie de McDo. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on est acheteur, on est aussi à la source de tout ce qui se passe sur le marché.
Mmh.
Tu vois, aujourd'hui, une entreprise comme Carrefour a mis en place ce qu'on appelle l'Act for Food.
Okay, ouais.
Tu vois, c'est un peu la communication que Carrefour a pour mettre en avant sa politique RSE. Mmh. Et ça finalement sa vision filière. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est acheteur, on a aussi un regard sur ça et on se dit, tiens, on a d'autres secteurs du business qui évoluent dans telle ou telle direction. C'est peut-être intéressant de se dire, on va peut-être essayer de suivre. Ou on a justement, et c'est aussi, je reviens sur le point relationnel, mais c'est aussi ça l'intérêt du relationnel.
Mmh.
Parce que le relationnel te permet d'être finalement dans les prémices d'innovation. Un fournisseur avec qui tu t'entends bien, avec qui tu travailles bien, avec qui il y a une vraie relation de partenariat, va être plus à même de te faire de la proposition sur des éléments qui changent, sur ce qu'il a développé comme nouvelle technologie, comme innovation, sur ce qu'il voit du business. Et c'est comme ça aussi que toi, tu arrives à être avant-gardiste dans ce que tu proposes au sein de ton entreprise et dans ce que l'entreprise propose finalement au sein de son marché.
D'accord. Mmh. Très bien. David, du coup, c'est quoi, est-ce que le métier, la fonction achat, elle est touchée par la technologie, par la transformation technologique des métiers? C'est quoi ta vision dessus, sur l'évolution du métier, de la fonction achat pour les 5-10 prochaines années?
Écoute, je me souviens qu'on avait parlé de transformation digitale lors de nos échanges.
Ouais.
Et finalement, le métier des achats est aussi concerné par ces transformations. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir se dire ce qu'on fait de manière très archaïque, est-ce qu'on peut finalement le rendre plus fluide, plus accessible, aller chercher finalement les entrepreneurs, ils parlent de scaler une activité. Mmh. Finalement, comment tu fais pour scaler ton activité achat? C'est aussi grâce à la digitalisation. Un exemple, là, quand j'étais chez Suez, il y avait ce qu'on appelle le système d'enchères inversées. Bon, à la télé, quand on voit les enchères, c'est pour acheter des beaux tableaux, des voitures de luxe et tout, donc de plus en plus cher. Quand on fait des achats et qu'on fait des enchères, c'est pour acheter de moins en moins cher.
D'accord.
Donc, okay. mais tu vois, et ça passe par des systèmes finalement qu'on appelle ERP, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des systèmes, des logiciels informatiques qui t'accompagnent finalement dans ce type d'activité. Et puis la digitalisation te permet aussi de pouvoir fiabiliser ta supply chain.
Ouais.
Tu vois, aujourd'hui, on se dit, ben, à quoi va me servir de pouvoir savoir d'où vient mon produit, à tel moment, par où il est passé, qui a été l'intermédiaire entre l'agriculteur et le distributeur. Mais la digitalisation te permet aussi d'aller toucher à ça et à fiabiliser l'information. Donc pour le consommateur, c'est hyper utile. Et nous, en tant qu'acheteur, on a aussi ce rôle-là de pouvoir, grâce à la digitalisation, améliorer l'information consommateur.
Ouais.
C'est hyper intéressant.
Ouais, c'est sûr. C'est un vrai enjeu. Enfin, c'est un vrai enjeu, pardon, pour des chez Carrefour à lancer un projet de blockchain pour fiabiliser sa chaîne d'approvisionnement, pour que le consommateur final puisse remonter à la personne qui a cultivé son produit. Donc, OK. Et du coup, c'est quoi ta vision de, un, de l'achat et deux, de l'agroalimentaire en Afrique? Je sais que t'es très linked to Africa. So.
Oui. Alors, déjà, ma vision de l'achat, mais je pense que c'est une fonction qui va continuer, tu vois, à gagner en maturité.
Ouais.
Parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, à mon avis, qui sont dans le registre de l'achat, qui est une fonction support qui sert à gérer un budget. Alors, je te parle beaucoup de l'industrie, et notamment de l'agroalimentaire. Après, tu as des business qui sont plus matures en achat, comme l'aéronautique, le monde de l'automobile. Et je ne te parle pas des achats de prestations, où là, tu peux effectivement arriver dans un cadre où tu as juste besoin de gérer un budget pour acheter telle ou telle prestation. Mais vraiment sur la partie agroalimentaire, la fonction doit gagner en maturité pour justement contribuer encore plus à accompagner le business, sortir d'un statut de fonction d'exécution à une fonction vraiment de business driver, ta capacité donc à accompagner le business par l'innovation, par la digitalisation, et par aussi ta compréhension des enjeux du domaine de ton entreprise.
Ouais, de l'entreprise.
Et pour moi, c'est ça le vrai rôle de l'achat dans le futur proche.
Ok. Et est-ce que tu as des boîtes africaines que tu vois qui ont un processus d'achat ou qui te parlent ou tu vois une vraie réflexion dessus?
Alors, il y a tellement de choses. Que je pense qui sont déjà faites, mais qui sont encore à faire. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai fait un stage chez Sifka,
d'accord,
qui est une entreprise internationale d'agroalimentaire, mais qui est une entreprise ivoirienne. Donc déjà, je suis toujours impressionné de me dire, et aussi quelque part fier de me dire que la Côte d'Ivoire a pu donner les moyens à une entreprise d'émerger, une entreprise qui a vraiment une vraie envergure
régionale, ouais.
Proche du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, quand j'ai fait sur mon stage, c'était chez Sanya. Donc, pour ceux qui connaissent l'huile du Nord, Sanya, c'est l'entreprise qui vend l'huile du Nord.
D'accord.
Et entre autres. Et du coup, dans ce type de structure, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux achats. Parce que ces entreprises-là peuvent utiliser finalement le savoir-faire qu'on connaît de la fonction achat pour essayer d'aller chercher l'avantage concurrentiel, la capacité à informer le consommateur encore plus qu'ils ne font, et finalement la capacité à innover, tu vois, donc appliquer ces trois leviers de l'achat à des entreprises comme celle-là. Après, bon, naturellement, tu as les structures internationales qui ont des filiales dans nos pays, en Afrique.
Nestlé, Unilever,
voilà, exactement, qui ont aussi une activité achat intéressante. Et puis, tu as la capacité aussi d'entreprises plus proches du monde de la négoce, qui commence à opérer le virage de la RSE.
D'accord,
c'est hyper intéressant de faire le lien entre les achats et la RSE, le développement durable, parce que tout est lié à ta capacité à acheter, c'est aussi ta capacité à prendre soin de ton environnement.
Ouais.
C'est-à-dire, quand je dis prendre soin, c'est avoir une relation gagnante-gagnante. On parle beaucoup, je prends l'exemple du monde du cacao en Côte d'Ivoire et de la capacité à permettre aux planteurs de vivre de manière décente avec un bon revenu. Mais tout l'enjeu de l'achat, si je suis dans une entreprise qui touche à cette matière première du cacao, tout mon enjeu, c'est d'acheter durablement.
D'avoir une bonne redistribution.
Voilà. Et si j'arrive à apporter de la valeur à l'amont agricole, j'arriverai à pérenniser mon activité.
Ouais.
Et sans cacao, je ne peux pas faire de chocolat. Donc le calcul est vite fait.
Mm-hmm.
Difficilement trouvé, mais vite fait.
Très bien. Et du coup, c'est quoi les next steps pour David? Comment tu vois ton futur proche et moyen terme?
Bah, écoute, c'est une vraie question. Alors, mon objectif, à moyen terme, il est de rentrer au pays.
D'accord.
Quand je dis rentrer au pays, c'est très général.
En Afrique,
c'est... En Afrique. Bon, j'ai volontairement utilisé l'expression rentrer au pays parce que ça, c'est pour te dire que finalement, je me sens chez moi sur le continent africain d'une manière générale. Pourquoi? Parce que c'est surtout un continent de challenge. Même pas dans l'idée, tu vois, d'entrer dans un discours politisé, hein, mais c'est que, par définition, un environnement challengeant est un environnement dans lequel je pense pouvoir me plaire, un environnement dans lequel il y a une source, tu vois, de richesse que tu peux difficilement quantifier.
Ouais.
Et je sais que le continent africain représente cela. Donc, si je peux contribuer, quand on a commencé l'entretien, je te disais que j'en suis beaucoup ce que vous faites.
Ouais.
Parce qu'il y a cette notion de contribution à l'autre, contribution à son environnement. Et je pense que j'ai aussi cette opportunité de le faire sur le continent. Donc, à moyen terme, c'est rentrer. Alors, en faisant quoi? Alors, c'est ça la grande question, c'est ce sur quoi je me positionne. Mais ce sera sûrement dans le monde agroalimentaire.
Okay.
Pourquoi pas avec mon entreprise. Donc là, je travaille sur différents sujets et l'objectif, c'est de monter une structure qui aura forcément une petite main dans l'achat, mais pas que.
D'accord. Ok. Et tu, l'entrepreneuriat, tu y penses un peu ou...
Ah oui, beaucoup, parce que finalement, monter sa structure, c'est être entrepreneur, donc j'y pense énormément. Et puis, c'est quelque chose aussi, on en parlait un peu plus tôt, mais entreprendre, c'est aussi finalement se lancer dans un chemin de vie.
Bien sûr.
Et j'aimerais avoir aussi cette chance-là de pouvoir finalement me dire, ok, je me lance dans un chemin de vie, je suis mon propre chef, et finalement, j'accède à la liberté souhaitée. Tu sais, il y a cette notion de liberté quand on est entrepreneur.
Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu as évoqué le fait de léguer, de contribuer. On a une question qu'on pose souvent, c'est de savoir quel conseil tu donnerais au jeune David qui se revoit à 18 ans sorti de son bac et par ce même biais-là, un conseil à tous nos jeunes qui ont 18 ans, qui sont encore à la fac, qui découvrent aujourd'hui la fonction achat ou le métier d'acheteur. Ou un métier sur autre chose de mentor. Quel conseil tu leur donnes au vu des changements, des gros changements de notre société aujourd'hui, en France, en Afrique, en Côte d'Ivoire, peu importe?
Mais écoute, le jeune David, j'ai beaucoup de choses à lui dire, mais en priorité, c'est de ne jamais avoir peur de réaliser ce qu'il a envie de réaliser, de toujours rester en phase avec ce qu'on a envie de faire. Et c'est, pour moi, c'est la garantie d'être sur le bon chemin. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Paulo Coelho. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus fans que moi, mais j'ai lu un de ses livres en pneumatique et alchimiste, et qui disait que quand on veut quelque chose et qu'on s'y donne à fond, tout l'univers conspire à te permettre d'y accéder. Et ça, c'est une réalité. Il faut vraiment se donner à fond dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime, et on est forcément sur le bon chemin.
Ok. Et on en discutait un peu, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, du MBA.
Oui, bah, écoute, bien sûr, tout à fait.
On en discutait parce que moi, clairement, c'est un de mes gros objectifs. Je sais que c'est une troisième, une manière de relancer, pas de relancer parce que ce n'est pas forcément une carrière qui a arrêté, mais c'est une expérience qu'on revit et qui permet de voir autre chose, développer sa fibre business. Est-ce que c'est quoi ta vision sur ça? Est-ce que tu as envie de faire un MBA dans une top école?
Complètement. C'est quelque chose qui, pour moi, ce serait un vrai aboutissement. Pourquoi? Comme tu as dit, ce n'est pas pour relancer une carrière, mais c'est pour s'inscrire tout simplement dans la continuité. Et tu vois, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'il faut apprécier chaque étape du voyage de la vie. Et finalement, s'inscrire dans la continuité, faire un MBA, c'est aussi apprendre à te redéfinir, à repasser par des choses qui vont te permettre de t'améliorer. Et c'est ça qui est important. Donc, derrière, si tu arrives à faire le MBA, tant mieux. Si tu n'arrives pas, tant mieux toujours.
Bien sûr.
Et c'est ça qui est intéressant. Et après, le MBA t'aide aussi, finalement, à avoir accès à des enjeux, à un caractère stratégique aussi, un caractère de responsabilité qui est encore plus intéressant.
Parce que, on en parlait avec une troisième personne qui est dans la pièce tout à l'heure, du caractère stratégique de la fonction achat. De plus en plus, on voit des acheteurs qui finissent. CEO de leur entité parce qu'ils ont une vision assez globale de toute la chaîne de l'entreprise, de bout en bout, de comment on achète et qu'est-ce qu'on vend.
Tout à fait. Et surtout quand tu es dans une entreprise qui base son activité ou son savoir-faire sur une matière première qui est ultra stratégique pour elle, l'expérience de l'achat est hyper importante pour te permettre de pérenniser ton activité.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que c'est une fonction qui a un caractère stratégique et qui continuera à l'avoir.
Très bien. David, est-ce que tu as des hobbies, des petites choses que tu fais au quotidien, des rituels qui te permettent d'augmenter ta productivité et que tu souhaiterais partager avec nous, avec nos auditeurs?
Ma productivité dans le boulot?
Dans
la vie d'une manière générale.
Les deux? Oui.
Alors, déjà, en termes de hobby, c'est écouter des podcasts.
Oui.
Alors, je réponds pas tellement à ta question parce que c'est pas la productivité, mais c'est pas parce que ça te donne des tips, mais ça t'ouvre l'esprit. Je trouve que c'est hyper cool. Ce que je fais beaucoup aussi, j'essaie d'adopter une approche structurée en système, c'est-à-dire que je structure les tâches que j'ai à faire, je me fais beaucoup de rendez-vous à moi-même au final. Et dans le travail, c'est hyper intéressant parce que on a pour habitude de travailler en open space, on est souvent dans l'échange avec les collaborateurs. Je t'ai dit, chez McDo, c'est très multimétier.
Ouais.
Mais c'est important de se mettre des rendez-vous à soi-même pour se recentrer sur une tâche ou sur son projet. Donc, en termes de tips, c'est important de se dire aussi qu'il faut ça loue un certain temps. Je ne sais pas, une heure, deux heures chaque semaine pour travailler son projet professionnel et par une occasion son projet de vie. Voilà, si tu as envie de te marier, il faut y penser.
Ouais.
En tout cas, j'essaye moi de structurer comme ça, sinon je pense pas et après c'est trop tard.
Bien sûr, ouais. Après on se retrouve face au mur, réfléchir. Ouais.
Donc ça fait partie des tips que j'ai. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur dans le quotidien, j'essaye aussi de respecter mes objectifs de temps.
Une to-do list la veille des activités, non, pas vraiment.
To-do list, mais une to-do list en fait que je trouve réaliste.
D'accord.
C'est-à-dire que en début de journée, je me donne trois objectifs prioritaires. Donc, dans la liste de ce que j'ai à faire, j'identifie trois points. Et ensuite, je me donne comme objectif absolu de terminer ces trois points en fin de journée. Et pour moi, trois points, c'est assez réaliste, tu vois. Et un autre tip, ce que je peux partager aux auditeurs, mais c'est aussi la capacité à dire non.
Okay.
Dans l'entreprise, et surtout dans nos cultures africaines, on a souvent envie d'aider, etc.
Ouais, tout fait,
ouais. Et c'est important de dire non, mais pas un non juste pour dire non, mais plutôt un non, mais, ou du coup un non qui se transforme en oui, mais. Ça te permet aussi de mieux structurer ton activité au quotidien.
Si tu me permets, sur les rendez-vous à soi-même, je l'avais découvert avec un podcast. J'oublie totalement le nom d'où ça vient, mais c'était hyper intéressant. C'était un start-upper ou un truc comme ça, qui disait qu'il se mettait, en emploi du temps, on remplit toujours les cases de rendez-vous avec telle personne, de tel voyage, etc. Et on met, du coup, on se garde jamais du temps pour soi-même. On est tout le temps en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et quand on a un temps libre, on a l'impression que c'est le moment où on doit rien faire. Enfin, il y a rien qui est marqué, donc on fait rien. Alors que typiquement, dans son agenda lecture, typiquement, ça te force à un moment donné à lire. Moi, j'ai énormément de mal ces dernières semaines à me poser à lire, à me poser pour lire, quoi. Et ça, c'est, j'ai pas mal de mal avec ça. Mais bon, je vais m'organiser. Et du coup, David, donc, on a dit sur la productivité, tes hobbies, tu nous en as parlé. Est-ce que tu as un livre, tu as parlé de Paulo Coelho, donc la chimiste, est-ce que tu as un autre livre, une appli de productivité, un sport que tu fais qui te permet de gagner en productivité aussi?
En termes d'appli, en ce moment, je teste Microsoft To Do. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est hyper intéressant parce que ça te permet d'organiser finalement ce que tu as à faire et généralement ce sont des tâches qui sont pas
c'est coupé à Wunderlist, c'est ça?
C'est possible, moi je
c'est plutôt To Do que tu
de manière native comme une to do list, mais qui fait par contre le lien avec Outlook, c'est peut-être ça que je voulais dire. Et c'est hyper intéressant parce que c'est pas des tâches hyper prioritaires, mais on oublie vite. En fait, si tu veux, moi, la clé de fonctionnement, mais c'est propre à chacun, c'est de me libérer de la charge mentale.
Clairement, ouais.
Et du coup, pour ça, il faut que je puisse avoir des outils qui m'accompagnent. Et j'utilise aussi beaucoup OneNote.
Oui.
Parce que ça me permet de garder une traçabilité des échanges que j'ai, des réunions et tout.
Ok. Et
en sport.
Petit livre ou un sport, oui.
Sport, alors, est-ce que c'est un sport de regarder l'NBA à la télé?
Ah, bah oui.
Mais
c'est quoi ton équipe, du coup?
Alors là, tu poses une question. Il ne faut pas que les éditeurs me détestent. Donc, je ne sais pas si je vais me lancer, mais je suis fan naturellement de Kevin Durant. Mais bon, j'ai parlé de Serge Ibaka,
oui.
De Siakam aussi, naturellement.
Oui.
Et Mo Bamba, qui est un
Ivoirien. Ivoirien, oui, je crois.
C'est important de le mentionner aussi. Mm. Et en sport, plus du sport en salle pour s'entretenir. Et parfois, alors mes amis. Comprendront la mention, mais parfois j'essaye d'aller jouer au basket, du coup.
D'accord. on t'essaiera de trouver un jour pour faire un petit match. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à David pour demain, tout de suite, dans une semaine, dans deux semaines?
De rester sur le chemin, sur sa vision, et de continuer à construire son projet. Continuer à contribuer et à donner dès qu'il peut à l'autre.
Très bien. Et où est-ce qu'on peut te joindre pour continuer cette discussion, des personnes qui sont intéressées par l'achat, par le basket?
Écoute, en priorité sur LinkedIn,
ouais.
J'essaye d'être plutôt actif. En tout cas, je réponds aux messages. Donc LinkedIn, c'est une bonne plateforme.
Ouais.
Avec mon prénom et mon nom de famille, on peut me retrouver assez facilement.
De toute façon, ils seront sur le podcast.
Ouais.
Ils seront retrouvables. Merci beaucoup, David. Est-ce que tu as une question? Tu as quelque chose que tu voudrais aborder qu'on n'a pas eu l'occasion de faire?
Non, c'est plutôt compliqué. Je suis très satisfait. J'espère que ça va intéresser les auditeurs. Ouais,
bien sûr.
N'hésite pas, en tout cas, à me contacter. Et puis, du coup, j'ai envie de poser la question que moi aussi, qui suis auditeur, j'aimerais poser, c'est qui la prochaine personne?
On prend pas mal d'enregistrements actuellement. Ouais. On a pêle-mêle, Fleur Ondois qu'on doit avoir bientôt. On a des bons petits, des beaux profils et des petites surprises aussi qu'on prévoit. On a divers profils, donc dans du conseil, dans de l'achat, on essaie d'avoir aussi des profils un peu plus seniors qui, je l'espère, arriveront bientôt. Et voilà. Et que les gens n'hésitent pas, si vous avez des personnalités ou des gens qui veulent partager leur expérience, n'hésitez pas à nous joindre sur nos différents réseaux, donc LinkedIn ou Instagram. Mm. Et voilà.
Non, mais écoute, en tout cas, c'est une belle initiative. Et puis, tu vois, même moi qui ai commencé ma carrière professionnelle, je suis aussi friand que les auditeurs d'écouter, parce que je peux toujours définir mon projet, on ne peut jamais d'apprendre.
Ouais.
Et donc, écoute, je compte sur toi pour continuer.
Hein. Merci beaucoup, David. Merci à toi et à très
merci
bientôt.
Beaucoup.
Au revoir. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. On a pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode. Merci beaucoup à David pour cet épisode hyper édifiant. C'est sûr que je ne verrai plus la fonction achat de la même manière. Et j'ai hâte de m'y replonger un peu plus pour connaître toutes les arcanes de cette belle fonction. J'espère que l'épisode vous a fait le même effet. Si c'est le cas, ce serait hyper sympa de nous recommander autour de vous, de nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Ça nous aide énormément à valoriser notre travail. Quant à nous, on est hyper heureux d'avoir ces interactions avec vous, de lire vos feedbacks et de voir vos propositions sur nos différentes plateformes. Notre credo, c'est avant tout le partage d'expériences efficaces afin que après chaque écoute, nous apprenions tous quelque chose de nouveau, susceptible de nous aider à faire la différence dans le milieu professionnel ou universitaire. N'hésitez pas à nous proposer des profils que vous trouverez intéressants et que vous avez envie d'entendre sur Choose Your Mentor. On sera un plaisir d'aller leur proposer une interview. On vous remercie énormément. On vous réserve de belles surprises pour les semaines à venir, notamment avec l'agence Bull qui nous accompagne sur la création de nos interfaces web. Merci à vous, excellente journée et
Choose Your Mentor.